On va traiter maintenant au début de ce hiver. Je vais parler un peu de la notion de tribu. Une notion dont on parle un peu comme ça dans la politique, aussi, dans la société. Voulais voir un petit peu de plus près ce que la Torah nous en dit. Alors, pour nous, la notion de tribu, curieusement, elle accompagne le clan Israël depuis le début, et aussi loin qu'on peut imaginer. Et par exemple, ce qui m'avait frappé, c'est que quand les Bnei Israël vont entrer en Eretz Israël sous la direction de Yoshua, on va continuer de parler de tribus. Moi, j'aurais pensé que si on veut fabriquer un peuple, ben justement, il faudrait essayer d'unifier tout ça et d'effacer la séparation entre les différentes tribus. Or, visiblement, c'est pas ça que Kadosh Baroukh Hou a décidé pour le clan Israël. La notion de tribu, chez nous, elle vraisemblablement que Terach appartenait à une tribu. Et donc, Abraham, il appartient à cette tribu-là aussi. Mais dans la Torah, c'est pas précisé d'où, à quelle tribu, le cas échéant, appartenait Terach. Et dans les listes des différentes générations, commencées par celles qu'on a lues cette semaine, parle de gens qui avaient probablement des descendants comme Banim, Banot, etc. Est-ce que tous appartenaient à la... Est-ce qu'on a... On va dire qu'ils sont tous la même tribu? Oui. Et à partir de quand des enfants du même père forment-ils des tribus? Quand on dit que, dans ce qu'on a lu ici, à l'allèle ou n'importe qui, il a donné naissance à celui qui va le suivre, mais aussi après ça, au lit de Banim ou Banot, il a mis au monde des garçons et des filles. Des garçons qui ont probablement eu des enfants dont on ne nous parle pas, et des filles qui se sont mariées qui ont eu des enfants dont on ne nous parle pas par la suite. On ne les connaît pas alors, descendants. Est-ce que c'est ça, leur descendance était des tribus? Ça formait des tribus? N'a pas d'idée de. Enfin, la Torah ne nous dit rien à ce sujet-là. Quand est-ce qu'elle commence à nous parler de tribus? Elle ne le dit pas tout de suite, mais voilà, ceux qui vont donner naissance à des tribus, bah, ils n'ont pas de caractère particulier. Pour les enfants pour nous, c'est les enfants de Yaakov. Pourquoi ça donne lieu à une tribu? Pourquoi c'est une tribu? Qu'est-ce que c'est? Une tribu, un des reproches qu'on fait en général, aujourd'hui en tout cas à la notion de tribu, c'est que la tribu, ça permet de partager les gens, nous et eux. Donc voilà, c'est aussi une façon de mettre les autres en dehors. Et on existe en se singularisant et en disant, eux n'en sont pas. On ne sait pas du tout, même y compris dans les tribus. Il n'est pas dit du tout dans la Torah en quoi ils étaient une tribu, en quoi les enfants de Reuven, les enfants de Shimon, etc., étaient une tribu. Qu'est-ce qu'ils avaient de spécial pour former une tribu? Pourquoi pas, je sais pas, vos enfants, ils ne forment pas chacun une tribu. Pourquoi les tribus? C'est basé sur quoi cette notion de tribu? Ça commence comment? Qu'est-ce qui fait que on a affaire à une tribu?
On a un leader et
Là, en l'occurrence, il n'est pas leader, c'est un père.
un père,
OK, mais les autres aussi, ils ont un père.
c'est un père qui a donné une série de lois, de reconnaissance et un adepte.
On n'en sait rien du tout. Dans la Torah, en tout cas, ce n'est pas marqué comme ça. Il n'y a
Ça
pas une Torah de Rouven, une Torah de Shimon et une Torah de Lévi.
dans la tribu, c'est quand elles sont levées, ils ont dit, chez Maïsa, ça veut dire que nous sommes tous dans cette
Ouais,
voilà.
je pense que tous les enfants autour du lit de mort de leur père vont dire à leur père, on est tous tes enfants, on est tous ensemble.
Et là, c'est pas dire tes enfants, c'est qu'on croit en cette chose, c'est ce qu'ils nous disent, c'est notre.
En quoi? Je veux bien vous croire, mais... Non, non, pas du tout. C'est pas ça. Et on a 12 tribus. C'est eux les tribus. Alors, ça commence, si vous voulez, ça commence dans Chazal. Quand Chazal disent que Yaakov se dit, j'ai raté mon coup. J'étais censé produire un peuple et je vois qu'il y a devant moi 12 peuples. C'est Yaakov qui... Oui, attendez, avant d'être assuré, il a eu peur. Oui. Alors, c'est Yaakov qui donne naissance, si vous voulez, par sa remarque. Donc c'est quoi? C'est le génie de Yaakov d'avoir reconnu qu'il y avait 12 peuples, mais quand vous avez des enfants, ils sont tous différents. En quoi est-ce que ces enfants à lui étaient tellement plus différents que les enfants de n'importe qui, pour que tout à coup ils disent, hein, eux c'est 12 peuples. Mais pourquoi c'est 12 peuples? Pourquoi tu vois 12 peuples dans la famille? Bon, quand Jacob est sur son lit de mort, les enfants ont déjà des enfants, des petits-enfants, etc. Ok, alors ils voient des familles. Ouais, moi je vois bien mes petits-enfants. Nos petits-enfants, Madame elle est là aussi, donc on voit nos petits-enfants et ben ils sont tous différents, ils ont des familles qui ont l'air d'être des familles différentes. Pardon? Quel Avodaou? Yaakov Avinu, il a rien dit du tout, il n'a pas du tout dit à celui-là tu feras, il n'a pas du tout donné une avoda spéciale.
Les caractéristiques propres de chaque enfant, les connaît.
Mais moi aussi, je connais les caractéristiques de mes
Et
enfants.
en même temps, ils ont le même but. Donc,
Mes enfants, ils ont aussi appris, eux, le même but.
d'accord.
Pardon? Mais où, qui, Kouna, ça commence pas, où est-ce que c'est ça, là? Pourquoi tout à coup il a décidé que c'est lui? C'est Jacob qui fait une différence entre ses enfants. C'est comme si c'était Jacob lui-même qui avait inventé des séparations entre ses enfants, dont on n'a jusqu'alors rien entendu de tel. Qu'il fasse une différence entre les enfants, entre ceux qui sont les enfants de Léa, les enfants de Shpachot et les enfants de Rachel, je peux encore comprendre. Quand ils ont une mère différente, alors eux, ils sont pas tous égaux. OK. Mais quelle est la différence entre ceux qui sont tous, les six qui sont les enfants de Léa, et les chaque fois, deux fois deux, les enfants des Shvatim et les deux de Léa, de Rachel, pardon. Qu'est-ce qu'il y a dans le texte? Rien du tout. Ben ouais, mais bon, ils sont premiers. Pourquoi ils sont premiers? Il n'y en a qu'un seul qui est premier. Enfin, disons, chez les fils de Léa, il y a un premier, il y a un premier chacune des Shvarot et un premier Yosef chez Rachel.
Sont la première génération des descendants des apôtres.
Oui, d'accord, c'est très bien. C'est tout. C'est tout ce qu'ils ont. Mais en quoi ça fait,
On va former un peuple,
Hmm?
il y a une notion au départ qu'on va faire un peuple, puisque les Rachel et Léa, elles veulent naître, elles veulent faire les enfants, donc il y a toute cette notion de formation de
Mais
peuple
elles ont voulu faire un peuple.
sur cette génération.
Disons qu'elles voulaient faire un peuple, mais est-ce que Rachel et Léa voulaient faire est-ce que Rachel voulait faire deux peuples et Léa voulait faire six peuples si elles ont voulu faire quelque chose, c'est un peuple. Alors, a priori, elles ont voulu faire, elles tout ensemble, le peuple. Disons, les quatre, elles font le même peuple. Et si déjà tu veux dire que c'est des peuples différents, alors je peux imaginer qu'il y a quatre peuples différents, mais pas douze.
Et comment imaginer une coexistence?
Pardon?
Comment imaginer une coexistence? Je ne sais pas, c'est un modèle unique.
Mais tous les peuples, les Français, tous les peuples. Et pourquoi c'est un peuple? Pourquoi ce serait... C'est une famille. Donc, c'est une famille agrandie. Pourquoi tout à coup ça s'appelle des peuples différents?
Vous dites un peu, comment le définir un peu?
Alors, le peuple, il se définit ou bien parce que les gens y habitent au même endroit, ou bien parce qu'ils adorent le même Dieu, ou bien parce que ils ont fait ensemble la guerre etc. Non, mais vous placez dans le futur. Je veux savoir qu'est-ce que Yaakov a vu, quand est-ce que ça commence? On a vu toutes les générations avant, ils avaient tous des familles. On ne nous a jamais dit dans la Torah que c'était devenu des tribus. Pourquoi ça commence? Laban, il est déjà bien tard. Non, mais tout le monde sait, tout le monde sait. Un instant, il y a quelqu'un là. Ah, c'est clair. Oui. Et c'est pas du tout évident qu'il y a une notion de tribu à ce moment-là. Elle naît, je sais bien qu'elle est en train de naître, je me demande qu'est-ce qui fait qu'elle naît. C'est-à-dire, en français, le mot tribu, quand si on regarde ça, la racine de chez les Latins, donc chez les Romains, la tribu, c'est un territoire. La tribu, c'est l'Empire romain était divisé en territoires qui s'appellent des tribus. Donc les gens qui habitaient sur ce territoire, ils ont formé une tribu, mais le mot tribu venait du territoire romain. Mais chez nous, ça ne peut pas venir du territoire, il n'y avait pas de territoire au départ. Donc chez nous, ça vient de ce que Jacob a décidé. Et en plus, on a l'impression qu'il ne l'a pas vraiment décidé. Et ça l'a frappé, puisqu'il pense qu'il a raté son coup. J'ai raté mon coup, je devais faire un peuple, maintenant il y en a 12. Et eux, ils le rassurent, ils lui disent, non, non, on est bien un peuple. On est 12 tribus, mais on forme néanmoins un peuple. Tu n'as pas raté ton coup.
C'est pas Yavan qui a besoin d'initier un enfant Rachel Léa
Il a raté. Oui, lui, il voulait faire rater. Bikesh l'accord et sa colle. Il a même voulu tous les tuer. Ou les récupérer. Oui.
qui a besoin
Pardon?
de
Non, ça c'est dans le changement, mais après, quand il les a rattrapés, quand ils se sont enfuis, il a dit, Yesh le, il a dit, j'ai le pouvoir, en fait, de. Enfin, il ne l'avait pas parce qu'Hachem lui a interdit, mais autrement, physiquement, avec ses fils, etc., il aurait pu faire la guerre à Yaakov, et à la limite, ou le tuer, ou l'emmener en esclavage, Ils récupéraient tous les enfants avec les petits-enfants et tous les troupeaux.
Saint-Pierre-Port a cru que c'était une idée. Je pensais que le centre général ne passait pas dans une unité. Pourquoi il pensait que j'ai pas cru?
Justement, c'est ça la question que je me pose.
Parce que chacun avait une expression
Mais
différente.
chacun a tous les enfants ont des expressions différentes. Vous avez deux filles, elles sont différentes.
C'est comme vous avez, comme il y a des chemins différents, ils ont tous le même but.
Ça, on n'en sait rien, même si c'est vrai, même si c'est vrai, alors ça, au contraire, alors faisons, supprimons la notion de tribu, s'ils arrivent au même, ils sont tout de suite, on voit leur but, alors. Pardon?
C'est leur expression en fonction de leur qualité, de leur.
D'accord, mais ça, alors, tous les enfants devraient donner une tribu. Chaque fois que vous avez des enfants, les enfants donnent des tribus. Et si ça change à chaque génération, alors il n'y a jamais de grande tribu, parce qu'à chaque fois, c'est à chaque fois une tribu, sous-tribu et sous-sous-tribu. Il n'y a jamais eu de modification qui fasse apparaître 12 peuples.
Alors, c'est Jacob qui l'a créé, ça? Oui.
À la limite,
Oui.
j'ai l'impression que si on s'en tient au texte, il ne l'a pas du tout créé. Il s'est aperçu, il est là, quoi, il a constaté, quand je dis qu'il pense qu'il a raté son coup, il dit, oh, mais c'est terrible. Il a besoin d'être rassuré, et il est rassuré.
Il
Finalement, il était facilement rassuré, mais.
apparaît qu'il
Et oui, pourquoi ces 12 peuples? Il sait très bien que quand on a deux enfants différents, 12 enfants différents, ben on a deux enfants différents. Ça fait pas 12 peuples. Pourquoi on ne peut pas imaginer?
Son frère, il est diamétralement opposé à lui.
Oui, bon.
Alors peut-être que cette expérience de voir son frère est vraiment, il a fait une direction complètement complètement enlevée. Alors, voyons la différence entre ces enfants, il s'est dit c'est 12 fois le problème que j'ai avec au lieu de vers les familles qui vont reconnaître Hachem, qui ont chacun un chemin divergent et qui comprennent ça.
Mais est-ce qu'il pensait que ses fils ne reconnaîtraient pas Hachem?
Qu'est-ce qu'il pensait?
Et puis en quoi, parce qu'ils lui disent on reconnaît Hachem, il est rassuré, quoi.
Donc, la chose, on peut savoir. C'est-à-dire que si j'écoute.
Mais qu'est-ce qu'il pensait jusque-là? Il les connaît, ses fils, il les a vus vivre.
Il les connaît, mais il avait aussi des divergences et des points.
Mais en quoi, parce qu'ils ont dit
C'était
que
pas seulement son fils.
on reconnaît Hachem, en quoi ça abolit les différences? Ça ne les a pas abolis, d'ailleurs, au contraire.
Mais ça veut dire que des expressions différentes pour aboutir, des chemins différents pour aboutir à un même but. Et lui, en tant que patriarche, il a vu selon les idoles de chacun. Comme disait Shirley, à ce moment-là, c'est comme l'équipe de foot, quoi. Il a changé les joueurs. Je ne sais pas si vous dites que c'est comme ça, mais il a dit, lui, je pensais qu'il allait avoir la crème, mais non, il ne sera pas capable, donc il a changé les joueurs.
À Sénégal, ils se reconnaissaient aussi. C'est-à-dire ils se reconnaissaient mutuellement. Le fait de dire c'était aussi dire on est différents, mais. On se respecte, on se reconnaît, on est complémentaires, on n'est pas divergents.
On n'entend pas de complémentarité dans ce qu'ils disent. Ils disent on a le même. C'est pas obligatoirement qu'on est complémentaire, on a la même chose.
C'est-à-dire, ça peut paraître, nous
C'est...
sommes différents, on n'est pas divergents, on converge quelque part.
Oui, bien sûr, il y a convergence. Mais quand il y a convergence, ça ne fait pas 12 peuples. La convergence, elle a plutôt tendance à abolir la différence.
On
Part de
respecte
quoi?
les différences.
C'est pas
Ça
vrai.
peut pas vouloir dire on respecte les différences.
cette convergence, ça peut pas signifier on respecte les différences.
La convergence ne veut pas dire qu'on respecte les différences, ça veut dire que on converge. En tout cas, il y a suffisamment de points de convergence, c'est tout. On peut être très différents et pas être d'accord, etc. Ils sont d'ailleurs pas d'accord, souvent. Oui, mais pourquoi il y aurait des tribus? Pourquoi figer à l'intérieur du peuple des séparations? Mais ça finit. Pourquoi ça s'arrête à ce moment-là? Pourquoi la nouvelle génération, la génération des enfants, des petits-enfants, pourquoi ils vont pas, eux, chacun, fabriquer une tribu?
Parce que probablement que là, on aurait fait une différence de peuple, mais on aurait eu carrément.
Mais pourquoi, d'où vous savez que ça s'arrête à ce moment-là?
Parce que la génération, c'est à ce moment-là qu'ils se forment, et que là, il n'y a pas de temps, il n'y a pas après, c'est mieux, c'est
Oui,
mieux.
ça c'est. Vous le savez parce qu'on vous l'a dit. Mais qu'est-ce qui dans ce qui s'est dans ce qu'on a devant nous, qu'est-ce qui distingue cette tribu-là, cette génération d'une autre génération?
Ils savaient qu'il devait avoir 12 tribus, puisque
Il voulait avoir 12
il
tribus.
n'y a pas de quoi les pierres se sont
Tu as tout à fait raison. Mais si c'est comme ça, pourquoi il a peur? De quoi il a eu peur, Jacob? Sinon, on savait qu'il fallait avoir 12 tribus. Ben alors, là, j'ai 12 tribus, parfait. Pourquoi il a peur?
C'est pas la même chose qu'on dit ça quand elle voit qu'on a deux peuples dans son entrée de
Bon, là-bas, il y avait la raison pour laquelle elle ne veut pas aller, c'est parce qu'elle ne veut pas, quand elle croit qu'elle a un enfant qui sort à tous les râteliers, quoi, il va bouffer à toutes les. Il pense que, quoi, il va en même temps. C'est un. Voilà, c'est tout, il s'intéresse à tout, quoi, ou il s'intéresse pas vraiment sérieusement aux choses, puisque on passe devant un temple idolâtre, il veut sortir, qu'on passe devant une synagogue, il veut sortir.
pour les villes, ça craint justement cette divergence par rapport à la reproduction de l'unité de la chaîne. La chaîne comme le peuple de la chaîne, donc il fallait savoir.
D'abord, c'est pas dit sous forme de tribu, mais ça inclut les sables aussi, la douce tribu. Et pourquoi chez Esav aussi? À cette génération-là, ils produisent des tribus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, si vous voulez, comme si le passage de. Vous vous souvenez, on avait dit que Rivka, en fait, d'après le Midrash que j'aime bien, qu'en vérité, il n'y aurait eu que deux patriarches, Abraham et Yitzhak. Et Yitzhak et Rivka, ils auraient eu, eux, les 12 tribus. Et seulement Rivka n'a pas voulu. En tout cas, telles que les choses se présentaient, elle ne le voulait pas comme ça. Donc ça veut dire que y avait une idée d'une époque matriarche, suivie d'une époque tribu, suivie de développement des tribus elles-mêmes, et qui vont, ces tribus-là, elles vont rassurer, enfin, ils vont rassurer Jacob en lui disant on est un seul peuple, mais en vérité, quand ils vont arriver en Égypte, ça va, il y a plus de peuple, ouais, puisqu'ils deviendront un peuple seulement au pied du Sinaï. Donc ça veut dire que cette notion de peuple, de tribu, on les connaît, ils vont sortir en tribu, la notion tribale, elle reste, mais celle de peuple, elle disparaît en Égypte. Et puis elle se reconstitue au pied du Sinaï. Et Alors là, on ne sait pas très bien, est-ce qu'ils ont reçu la Torah parce qu'ils étaient devenus un peuple, ou bien est-ce qu'ils deviennent un peuple parce qu'ils reçoivent la Torah? D'accord, c'est, mais peu importe, à ce moment-là, ils deviennent un peuple. Ils deviennent un peuple, mais donc à ce moment-là, on pourrait penser, bon, ben, on n'a plus besoin de la notion de tribu. On avait besoin de tribu, quoi, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais pourquoi on a passé par l'étape tribu, je ne sais pas. Mais visiblement, on savait que la génération après Jacob, après les trois générations de patriarches, deux respectivement trois générations de patriarches, il y avait une génération de shvatim, de tribus. Et après, non. Et après, il y a la notion de peuple. Alors, je ne sais pas exactement ce que craignait Jacob
Et
quand il a vu,
justement,
il savait que le... Pardon?
en Égypte, les Lévites, par exemple, ils sont restés en tribu.
Seulement les Lévis, ils étaient un peu à part. Mais parce qu'effectivement, mais c'est même pas eux qui ont choisi d'être à part. Enfin, on peut dire que c'est la suite d'une décision de Jacob, parce que comme vous savez probablement, quand Jacob a compris qu'ils allaient descendre en Égypte, il a envoyé Yehuda, qui allait être le roi, pour organiser les choses, mais il a envoyé Lévi comme Rosh Yeshiva. C'est pas le Rosh Yeshiva, c'était pas Yehuda, c'était Lévi. Et c'est pour ça probablement qu'il avait ce rôle de presque le Il y avait déjà l'idée quasiment qui existe chez les prêtres avec le savoir, le savoir-faire, le dépositaire, etc. Et bon, du coup, ça les a mis un peu à part. Et les Égyptiens ont respecté leur statut à part puisqu'ils ne les ont pas réduits en esclavage, eux. Et les Lévi, ils étaient pas, ils sont, ils n'ont pas. Et du coup, par la suite, ils ont toujours une trajectoire particulière. Ils vont perdre quasiment leur statut. Parce qu'ils vont mal se comporter. Ils s'étaient mal comportés. Ils avaient quelque chose déjà qui marchait pas vraiment bien quand ils sont massacrés Shrem avec Shimon. Mais eux, ils se sont rattrapés après le veau d'or. Eux, visiblement, ils n'ont pas fait le veau d'or. Et au contraire, ils sont allés, quand Moshe a dit Mil Hashem Elai, ils sont venus tous chez Moshe. Et donc, quoi?
Parce qu'ils ont rejeté pour les personnes.
Non, il n'y a que Aaron qui est devenu Cohen. Aaron et ses fils, ses trois fils.
Pourquoi est-ce que tu connais pas toi? Parce que les affaires, comme j'ai dit, la seconde année.
Mais il n'a pas dit ça à Lévi, il a dit ça à Israël. Alors, donc là, quelque part, pour l'instant, j'essaie de montrer un peu pourquoi oh, ça m'intéresse cette histoire de tribu. D'accord? Parce qu'on ne comprend pas grand-chose, quoi. Pourquoi ça n'a pas été aboli? Et au contraire, donc, alors après, on va donner à chacun sa place, etc. Ils vont jouer des rôles différents, puisqu'on va leur donner des places différentes. Et cette organisation, c'est une organisation qui, comme on l'a déjà raconté au Shiur de Chumash, c'est une organisation formidable qui servira plus jamais à rien. D'accord? Cette organisation de celui-là au nord, celui-là au sud, etc., et les groupes de 4 x 3, tout ça, ça existe dans le désert. Ensuite, c'est plus du tout comme ça. Quand on a le Shiloh, ni finalement le Beth Amikdash, ne sont centraux, et puis les autres sont trois tribus au nord, trois tribus dans chaque point cardinal. Et pourtant, là-bas, on partage aussi Eretz Israël en tribus, et ensuite dans tribus, différentes familles, etc. Après, on va éventuellement même, alors ça fait des petits problèmes, la première génération, ça va faire des problèmes avec les filles de Sophrod, avec des problèmes de territoire qui risquent de migrer. Ah, donc, on va dire à ces pauvres filles, vous pouvez épouser vos cousins, etc., mais pas les gens des autres tribus. Mais on garde ça, c'est seulement la première année, la première génération. Après, on épouse qui on veut, donc on promène aussi les territoires, ou on promène pas les territoires, c'est un peu compliqué. Et après, d'ailleurs, on ne comprend plus rien du tout dans cette histoire des territoires, parce qu'avec le système d'héritage, on comprend très très mal qu'est-ce qu'il y a à hériter. Quel territoire patrimonial, une famille avec 10 enfants, quand qui a reçu son truc, si les 10 enfants ils héritent, alors peut-être même si ça se trouve il y a un bechor et 10 garçons et un bechor, donc il y a 11 il y a 11 parts qui sont distribuées, donc ça devient des confettis quoi. L'Eretz Israël, si c'était la Chine ou alors ça irait un peu plus lentement, mais en tout Eretz Israël, même le grand Israël, ça fait pas longtemps pour devenir des confettis, quoi. Leur territoire. Donc je sais pas exactement de quoi on parle quand on parle de ces questions-là. Pourtant on en parle pas mal. Oui, alors après, c'est en plus ce que je vous raconte tout le temps, c'est qu'effectivement, quand la tribu de Reuven et de Gad décident de ne pas passer, de prendre leur territoire de l'autre côté du Jourdain, enfin, de ne pas passer de l'autre côté du Jourdain pour. Alors, ça chamboule tout, toute l'organisation qui était prévue, on allait partager en 12, maintenant on partage plus qu'en 9 et demi ou quelque chose comme ça, et puis il y en a 2 et demi à l'extérieur. On ne comprend plus rien du tout. Et ensuite, alors après, c'est le désastre, parce qu'après Shlomo HaMelech, il y a le schisme. Vous avez 9 tribus et demie qui forment le royaume du Nord, le royaume d'Israël, et les deux autres, 2 et demi, là, les deux petits, qui forment le royaume de Juda, et puis le royaume du Nord, il disparaît. Ces territoires-là, et après, ça fait, par la suite, ça va faire deux mondes. Yehuda et Galil, c'est des mondes dans lesquels on peut circuler l'un à l'autre, mais c'est vraiment des mondes différents. C'est des pays différents. On peut pas transporter un guet d'un endroit à l'autre sans qu'on le traite comme si c'était un guet qui venait d'un pays étranger, etc. C'est incroyable, quoi. Et pendant la guerre contre les Romains, il y avait des gouverneurs différents sur les trucs et ils n'étaient pas d'accord sur la stratégie, etc. Finalement, tout ce monde-là était exilé par les Romains.
C'est cette pluralité qu'il y a pas du perçoit à ce moment-là, c'est quand même elle qui donne le sens à une répartition géographique différente en fonction de l'autre.
Mais pas géographique sur la terre d'Israël et qui correspond pas du tout à l'organisation dans le désert. Pourquoi on a gardé Bichlal pour, puis de toute manière, il fallait partager en famille, on aurait pu partager directement en famille. Alors, est-ce que c'est pour des raisons techniques, peut-être plus facile de faire un partage d'abord en tribus, puis ensuite des tribus en famille? Pourquoi? Je sais pas. Les tribus, ça s'appelle Shvatim. Et dans la Torah, il y a un deuxième nom pour les tribus. Ça s'appelle un maté. Les matotes. Une paracha qui s'appelle matot, oui. Pourquoi? Parce que le mot, premier mot significatif dans la paracha, c'est Raché à matot. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux mots, Chevet et Maté, ces deux mots qui disent presque la même chose, un c'est le sceptre, l'autre c'est le bâton, mais c'est un peu le bâton de maréchal, quoi. C'est les insignes de la puissance. Ça montre. Et c'est intéressant parce que même le sceptre, c'est un bâton, quoi, un peu travaillé. C'est des bâtons. Donc c'est un peu la puissance, mais c'est pas une étoile, c'est pas. Bon, c'est un bâton quand même. Un bâton, ça veut dire, c'est un pouvoir, c'est donner du bâton à ceux qui vont pas m'obéir, quoi. Alors, je ne sais pas l'étymologie en français, par exemple, de s'il y a une étymologie différente. Pourquoi ça s'appelle le trib? Tribes, peu importe. Ça vient, semble-t-il. Ça s'appelait, le son de tribu, pratiquement le même mot chez les Latins, chez les Romains. Et je ne sais pas à quoi ça correspond. Si ça correspond à quelque chose en latin, je ne sais pas. Mais en tout cas, en hébreu, il y a deux mots. C'est aussi intéressant. D'accord? Un qui est plus sophistiqué, qui est chevet, puis un qui est simplement bâton. Bon, maté, c'est maté à Aaron, maté, c'est même bon, c'était toujours, c'est le bâton. Alors, les tribus, dans le clan d'Israël, ils vont garder un certain statut de peuple, en fait. C'est-à-dire que les tribus, elles vont avoir leurs propres tribunaux. Y a bien un tribunal suprême, finalement, à Yerushalayim, mais il y a un tribunal suprême de chaque tribu. Alors, on explique la nécessité d'avoir des tribunaux spéciaux pour chaque tribu, en disant que c'est un problème de langage, quasiment. C'est-à-dire que c'est clair que les mots n'ont pas le même sens dans toutes les parties d'Eretz Israël. Les mots n'ont pas le même sens à Paris et à Marseille. Et par conséquent, il y a un souci que pour rendre la justice, il faut être sûr que les tribunaux et les justiciables se comprennent parfaitement. Pas que quelqu'un utilise un mot et le tribunal y comprend autre chose et il le juge, il le traite en fonction de ce qu'il a compris du mot, qui n'est pas du tout ce que le bonhomme a dit. Et donc, vu la sensibilité, on comprend qu'on ait besoin de tribunaux ad hoc pour chaque tribu. Alors, effectivement, dans les brachot que Yaakov a donné finalement à ses enfants, ce sont devenus des brachot qui sont pour les enfants, mais qui sont donc devenus des brachot pour la tribu en question. Et les brachot, elles ont en quelque sorte, vous savez bien que ce qu'on explique, vous l'avez surtout dit au nom de Rabolbeck, que appeler ça des brachot, ce que Yaakov a dit à ses fils, c'est pas tellement évident parce qu'il y en a qui ont pris quelque chose qui ressemble presque plus à une malédiction qu'à une bénédiction. Mais il faut l'entendre comme étant une révélation à chacun de ce qu'il est capable de faire. Et donc de ce qu'il va devoir faire dans le clan d'Israël. Dire cette notion de tribu, elle va être utile parce que ça va permettre de donner à chacun un rôle. Chacune des tribus va avoir un rôle particulier. En réalité, chaque individu composant le clan d'Israël a un rôle particulier. Chacun d'entre nous a disons, on pourrait dire, un certain nombre de. On est astreint à toutes les mitzvot, astreint à toutes les mitzvot, mais il y a des mitzvot avec lesquelles on a des affinités. Et dans ces mitzvot-là, il faut exceller, parce qu'une certaine manière, c'est moi dans le monde des mitzvot. Alors, ça existe à l'échelle individuelle, et ça existe aussi à l'échelle des tribus. Il y a un souci, justement, puisque chacun a un rôle à jouer, il y a un souci de veiller à ce qu'aucune tribu ne disparaisse. C'était un problème qu'ils ont eu avec la tribu de Binyamin. Parce qu'à la suite de Pilegesh Begiva, les gens avaient décidé, les autres tribus ont décidé que personne ne ferait de mariage avec la tribu de Binyamin, ben alors cette tribu, elle allait disparaître. Et ça, c'était inacceptable. Et donc, ils ont dû trouver un moyen de contourner le serment qu'ils avaient fait que ils n'allaient pas donner leurs enfants en mariage à la tribu de Binyamin. Bon, effectivement, ils n'ont pas donné, ils ont laissé prendre.
Pas un sujet de mais on ne pouvait pas imaginer qu'il y a plus d'amis qui ne sont pas dans cette tribu, qui ne peuvent pas parler dans les autres tribus, il faut écouter les plus d'amis dans cette tribu.
Ça c'est limité probablement au bout d'un certain temps. Ça devient rapidement incestueux, quoi.
Je décide de l'envoyer.
Faut croire qu'ils n'étaient pas assez nombreux,
Je ne
puisqu'il y
connais
en
pas
a.
où j'ai passé.
Ouais.
Super connaissance de cette tribu. La fin de la question.
Ouais. Bon, il y avait quand même quelques milliers, mais probablement, on a considéré que ça marchait plus, donc ils n'avaient pas non plus envie de.
Pour une cinq générations, il se marie un peu.
Oui, c'est vrai. Bon, enfin, ils n'ont pas voulu, visiblement. Donc, à cause de pourquoi veiller à ce que ces tribus ne disparaissent pas. Ces tribus ne disparaissent pas.
Ah, je ne comprends pas pourquoi il y a cette situation dans la mesure où quand on dit que
Bon, le fait que nous soyons issus d'une seule et même famille, bon, puisque les avots comme les imaot viennent tous de la même famille. Tout le monde, ils sont tous descendants de Terach et Antelaï. Et d'habitude, on est fier de son ascendance, mais il faut pas oublier que Terach et Amplai ont été choisis pour que la Neshama d'Abraham descende dans cette famille-là, parce que c'était le couple le plus pourri que les anges ont trouvé. Les anges qui voulaient pas que la Neshama d'Abraham descende dans le monde, parce qu'Abraham allait transformer le monde dans un sens. C'est les anges négatifs, quoi. Allez, Abraham, il a changé le monde dans le sens positif, ils ne voulaient pas. Alors, ils ont essayé d'habitude, pendant un certain temps, d'empêcher de veiller à ce qu'elle ne descende pas. Après, ils se sont dit, au lieu de veiller à ce qu'elle ne descende pas, faisons-la descendre dans un endroit où on est sûr qu'elle ne remontera pas. Alors, ils ont été sûrs. On a choisi le couple le plus pourri du monde. Il faut être fier, quoi. Nous sommes les descendants du couple le plus pourri du monde, choisi par des experts. C'est les anges, ils savaient de qui ils parlaient. Quoi? Ça veut dire ça? Bon, faut pas vous vexer, hein, on est tous à la même enseigne. Mais donc, bon, c'est une famille. Ça veut dire quelque part, visiblement, c'était, même si certains d'entre eux étaient plus ou moins idolâtres, mais il y avait Avraham Avinu qui. C'est Avraham Avinu qui décide que on va pas se marier avec n'importe qui. C'est-à-dire, Ça veut dire, est-ce qu'il y avait quelque chose dans la famille qu'Abraham Avinu a reconnu, là aussi, non. Même si ils sont pas bien, même si Betourel, Laban, c'était pas la crème de la crème, hein. Mais bon, il vaut mieux cela que, puisque quand Eliezer dit, si je ne trouve pas dans la famille, je vais prendre quelqu'un d'autre, pas question. Oui, c'est pour ça que c'est une sgoula pour les. Ouais. Elle avait Emouna. Oui, il avait un ennemi En tout cas, ouais. Et c'est quand même le plus pourri, quoi. Alors, ça, c'est la raison pour laquelle, effectivement, je pense, on a gardé la notion de tribu, c'est pour préserver la diversité. Chacun va se développer un plus fortement dans une direction, et on va avoir de la diversité, parce que si on fait, si on unifie tout, alors on n'aura que des clones. Alors maintenant, ça, il y a deux choses. Ce que vous vous dites maintenant, c'est que d'apprendre à tolérer des gens dans le peuple parce qu'ils ne sont pas de la même tribu que moi, ce qui est le grand problème des tribus, justement, c'est les autres, je n'ai rien à voir, pas du tout, c'est les autres et je dois travailler avec eux parce ils forment avec moi le même peuple. Alors du coup, on va pouvoir. Et c'est la spécificité du clan Israël, on va pouvoir en vérité accepter quasiment n'importe qui. Toute personne qui voudra venir avec ses caractéristiques, pour peu qu'elle reconnaisse la vérité de la Torah, en d'autres termes, ben elle peut entrer dans le clan Israël. Oui, une conversion. Mais ça, c'est un côté, et à l'autre côté qui est. Alors, grâce au fait que chacun va se développer à sa manière, on va avoir une certaine richesse. C'est une richesse d'avoir des composantes différentes où chacun va apporter sa contribution. Alors, il y a, je pense, regardez quelque chose de bon. Les Suisses, ils ont fait la même chose. Regardez les cantons. C'est structure cantonale, ça donne chaque canton à sa spécificité. Plus, eux, ils ont encore ajouté, les Suisses, ils ont quatre langues nationales dans ce petit pays. Donc, ça ajoute de la diversité, quoi. Parce que tu parles une autre langue, c'est une autre façon de penser le monde. Peut-être d'ailleurs que notre capacité de résister dans le galout, vient de ce qu'on était les tribus. Parce qu'on a appris à faire avec les uns, avec les autres. C'était comme ça que je me suis expliqué un peu pourquoi est-ce qu'on a gardé les structures tribales. Pardon? Alors, les guérims, c'est des gens qui sont de l'extérieur, mais il n'y a pas de traitement très clair dans la mesure où, bon, tant Tant que c'est le peuple, ils sont dans le peuple, ils sont, peu importe. Visiblement, si on ne vient pas revendiquer, dire je suis là de droit, alors tu peux être où tu veux. Tout le problème avec le blasphémateur, c'est que lui, il dit je revendique le droit de camper dans la tribu de Dan. Parce que ma mère était de Dan. Alors les gens disent non, de droit, tu n'as pas. Et jusque-là, où est-ce qu'il campait? Dans la tribu de Dan. Mais bon, là, on t'accepte, mais ne viens pas dire que tu as des droits. Tu n'as pas des droits, mais même sans droits, tu peux être avec nous. Bon, alors c'est vrai qu'on parle de toutes sortes de canaux spéciaux pour chaque tribu, etc. Alors, la question de Dany, elle est très claire, là. Et alors, par quelle tribu, par quel canal Rabbi Akiva et Rabbi Meir et Onkelos et Shmaya, Talion, hein? Et Ruth et donc David, parce que aussi, d'où ils sont nourris tous ces gens-là? Je pense toujours, je suis pas sûr qu'il y a un canal où il y a pas de tribu où il y a autant de gens extraordinaires que dans l'ensemble des guérims. Parce que les guérims, c'est uniquement des gens extraordinaires. Et donc, les gens dans les autres tribus, ceux qui ont fait seulement l'effort de naître dans la tribu en question, bon, ben, ils ont fait cet effort-là, c'est pas mal, mais c'est pas singulier, quoi. Alors, c'est pas clair, mais à la limite, c'est encore bien plus brillant, quoi. Mamzerim. Un Mamzer, il est tout à fait. Il appartient au clan d'Israël. Simplement, il a une restriction pour se marier, c'est tout. La Gemara dit qu'un Mamzer Talmid Chacham, il est plus grand que le Kohen Gadol Amaretz. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne peut pas devenir Kohen Gadol, mais il peut être aussi grand, plus grand qu'un Kohen Gadol. Il ne peut pas devenir Kohen Gadol, mais ni toi ni moi ne pouvons devenir Kohen Gadol, on est Israël. Oui. Encore une fois. Ils sont guéris au départ, après, ils vont. Un mamzer, il peut épouser une mamzerette. Et leur enfant sera mamzer. C'est tout, c'est les gens. Ils auront toujours des restrictions quant aux personnes avec lesquelles ils peuvent ou elles peuvent se marier.
Ça se manifeste dans le mariage. Pour le mamzer, sa limitation n'est que dans le mariage. Le
Oui.
reste, c'est la continuité.
Oui. Oui, c'est possible que les mamzerim vont disparaître avec le temps. De force de ne pas pouvoir se marier avec n'importe qui, il y en a pas mal qui ne vont pas se marier, ils vont disparaître. Donc, t'es tribulé, toi? Oui, aussi. Si c'est un chemin qui revient, il en revient. Le chemin ne disparaît sûrement pas.
Une bonne chose, le J'espère que tu vas, c'est une bonne chose. Oui, ça se perspective, mais réviser,
En quoi c'est une bonne chose?
parce que quand ils sont fatigués,
Le problème, c'est. Ça, c'est le grand problème de façon générale, des parents qui boivent et les enfants qui trinquent. Je veux dire, c'est la même chose, si la mère se drogue, bon, et l'enfant est né avec telle ou telle malformation, etc. Il n'en peut rien. Et donc, et le mamzer, le paradoxe, c'est que le mamzer, lui, il peut rien, il n'en peut rien du tout. Celui qui a fait la Avera, il n'est pas mamzer. Lui, l'autre qui a fait la Avera, il fait tchouva. Et voilà. Et lui, il est mamzer.
Considérer que
Oh non, c'est.
c'est une forme d'injustice dans la société. Peut-être ostraciser comme ça, c'est gênant.
Oui, c'est insupportable. C'est pas. Ah, oui, bon, ça a des raisons d'être, probablement. L'idée, c'est que on dit qu'il peut être très grand, ça veut dire qu'il y a en théorie rien qui l'empêche d'être grand, etc. Et dans ce cas-là, on peut se demander pourquoi il est mamzer, finalement.
Si on raisonne avec l'enfant par rapport aux enfants qui sont dans des traumas qui tournent mal, etc., on peut dire que c'est si on peut dire que c'est les méchants qui ont pris la nature. On peut aussi dire, si on va dans le monde des bisounours, on peut dire que la personne doit qui doit envoyer les méchants à des gens qui ont produit cette avéra, alors ils ont envoyé des chemins qui avaient un petit coup. Et cette petite coup, ça va être le petit coup, ça va être cette souffrance qu'il aura d'être ostracisé. En même temps, il a la possibilité de devenir très grand, et donc ça fera un petit coup complet à cette méchante. Et chacun de nous a la possibilité de devenir très grand. On peut tous, et pas tout le monde, on peut tous devenir très grand.
Oui,
Très
mais le
grand.
mamzer aussi.
Oui, c'est aussi comme un jeune garçon. Mais en plus, il a signé du tanguy. Et le limite, c'est peut-être cette histoire étant donné une limite, il a plus de mérite parce qu'il est limité. Peut-être.
Peut-être.
Limité socialement.
Bien sûr que c'est une épreuve de. Il y a des chazals qui ont l'air de dire qu'à la fin des temps, à mon avis, il va purifier les mamzerim. C'est-à-dire, il va montrer qu'éventuellement, ils n'étaient pas vraiment mamzer, quoi.
Parfait, c'est moi la mémoire. Le Bansen, c'est l'union parfaite.
C'est ou bien un inceste, le produit d'un inceste, ou bien un rapport avec une femme mariée.
Il peut y avoir des mansérines qui ne sont pas touchées alors.
Un mamzer peut simplement être le mariage de deux mamzeries. Oui, bien sûr. Mais alors, un safek mamzer, c'est moutard. Donc, si la personne, elle va à un endroit où personne le connaît, donc, parfait. Il peut arriver à se fondre dans la masse, quoi, quelque part. Avant, il y avait, dans les communautés très stables, il y avait des listes de mamzerim.
Le monsieur est marié et la femme, non, c'est pas mal.
Non, c'est seulement la femme qui a une kedusha. Le mari, il n'a pas de kedusha. Donc on a un système de tribus. Alors on a, donc on revoit un peu cette histoire. On ne sait pas exactement pourquoi effectivement cette troisième, cette quatrième génération, c'est la génération des Shvatim. Bon, pourquoi? Pourquoi eux deviennent Tchevet et pas leurs enfants et... Sur les Avot, il y a un chazal qui dit En Nikraim Avot Ela Shlosha. Il n'y a que trois générations, donc trois personnes sur trois générations qui sont appelées Avot. Parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi, d'accord, Yosef, il aurait pu être Av aussi. Et les autres aussi, d'ailleurs, ses frères. Oui, hein, il a pensé à un moment donné qu'il allait le devenir. Et puis il a un statut presque de Av, je veux dire, un statut ambigu, quoi. Et donc, ça règle le problème des générations des Avot. Et donc des Imaot, puisque Imaot sont des femmes de Av. Bon, et d'un autre côté, toutes les femmes des Avot ne sont pas des Imaot, pas considérées comme des Imaot. Les deux Shvachot, elles ne sont pas considérées comme Imaot, bien qu'elles le soient. Mais là aussi, c'est très étonnant, si vous voulez, cette idée-là. Parce que si elles sont des Shvachot, si on les traite comme des esclaves, ce qu'elles étaient probablement formellement, alors leurs enfants sont esclaves. Donc, il y a quatre Shvatim dans le clan Israël qui, en fait, sont des esclaves. Si on dit comme ça. Donc, on peut sûrement pas dire comme ça. Alors, du coup, elles sont plus esclaves. Alors, pourquoi? Elles sont des épouses. Alors, pourquoi elles sont pas les Imaot? Vous voyez, c'est pas. Pas évident.
C'est d'autant plus étonnant parce que c'était des demi-sœurs aussi.
Oui, a priori, on dit que c'était les demi-sœurs. Bon, ça change rien, ça.
C'est aussi parce qu'elles sont une portion dans la ligne des femmes, c'est des demi-sœurs.
Sont dans.
Dans la lignée des femmes, ce sont des demi-sœurs.
Mais les Imaot, elles sont Imaot pas par leurs parents, mais par leur mariage. Donc c'est simplement, elles sont des Imaot parce qu'elles sont mariées avec Yaakov. Et normalement, on est d'habitude, on dit Arba Imaot, d'accord? Sinon, ça marche pas dans le. Qu'est-ce qu'on va chanter à Pessah, même si. Maintenant, elles sont chichas, donc
Il y a des filles qui s'appellent Julia, parce que Julia.
ouais. Bilpa, oui, Bilha.
J'en connais plus.
De quoi?
Je ne sais pas.
J'en avais entendu une autre, Bilpa. Ouais.
Ouais.
J'ai entendu, j'ai, je sais que j'ai entendu une autre, mais
Et puis là,
Et là, j'en connais pas.
madame.
Mais si elle est appelée Zilpo, si elle s'appelle Zilpo, c'est qu'on appelait Zilpo avant. Par Frakin, il n'a pas donné des noms avant, enfin, que personne ne donnait. Bon, alors ça, il y a cette histoire. Alors, on a l'impression que, donc, au niveau des Avot et des Imaot, c'est très très serré, c'est une seule famille. Et puis on ouvre un tout petit peu et dans les Shvatim, alors du coup, on ne sait plus très bien, parce que dans les Shvatim, ils sont nés avec des jumelles. Chaque chevêque qui est né, il est né aussi avec une jumelle. Et donc, il y a une discussion après, est-ce qu'ils se sont mariés avec des jumelles, avec leur sœur, peut-être la jumelle de l'autre, mais en tout cas, c'est des sœurs quand même. Ou bien alors, est-ce qu'ils ont épousé des étrangères, cananéennes? On ne s'est pas vraiment tranché parce que celle dont on pourrait penser qu'elle était une cananéenne, c'est la femme de Yehuda, la première. Et en fait, ça veut, cananéen, ça veut dire marchand dans la Torah. Un commerçant, un marchand. Donc, c'était pas qu'il était cananéen, c'est que il était marchand. Donc, on n'a pas de preuve directe. Alors, si ils sont nés chacun avec une jumelle, est-ce que ça s'est fait pour qu'ils n'aient pas besoin d'épouser les Cananéennes? Mais après, c'est fini. Après, les gens, ils naissent sans jumelles, a priori. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a plus de filles maintenant dans le clan d'Israël, mais eux, ils peuvent épouser les Cananéennes. C'est pas un interdit d'épouser une Cananéenne à ce moment-là. Il y a même plus de filles qui sont nées en clan d'Israël.
Ah, mais d'abord.
Il y a davantage de filles. Non, non, pas plus que.
Davantage
Davantage de filles, donc il y a plus de
de
choix.
toute façon, la femme de Yehuda n'a pas eu de descendance, en fait.
Enfin, pas une descendance au sens où.
Non.
De quoi? Il n'est pas mort, Hachette, non? Le troisième.
Le pas mort. C'est là.
Je sais, peut-être dans Livre à Yamim, on parle de lui, mais moi je ne sais pas ce qu'il est devenu le troisième fils, celui que Yehuda n'a pas voulu donner à Tamar. Alors, à part ça, il y a effectivement dès le départ des femmes qui veulent absolument entrer dans le. Dans la famille et qu'on laisse pas entrer. Enfin, celle qu'on laisse entrer, il y en a d'abord une qu'on laisse pas entrer. Alors c'est paradoxal parce que c'est la fameuse Timna. Et cette Timna-là, elle veut absolument entrer, mais personne ne la laisse entrer. C'est étonnant, Abraham, Isaac, Jacob, c'est des gens qui sont hospitaliers, tout ce qu'on veut, on reçoit toutes sortes de gens. Elle, non, on la veut pas. Et on ne sait pas pourquoi. Aucune idée. Même Ésaü, il la veut pas pour son fils, puisqu'elle devient seulement la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle ne devient pas son épouse. Et celle que on ne veut pas laisser entrer, elle va donner naissance à Amalek.
C'est pour ça que les femmes peuvent porter en elles, je ne sais pas, quelqu'un peut devoir raconter, je peux porter en elles.
Mais oui, mais là, ce qui est intéressant, c'est que les Chachamim, ils auraient pu nous dire.
Oui.
Bon, ça, ils ont pensé que Claudine nous le dira, mais
Mais
auraient
c'est
pu
pas
le
parce qu'il
dire
a
pour les gens
accepté, il a
qui.
accepté tout le monde.
Oui.
Et s'il n'a pas accepté, il devait avoir raison.
Oui, d'accord, ils doivent avoir des raisons, mais pourquoi la Torah ne nous donne pas les raisons? Ils ont attendu
Soit
que
accepté,
Claudine nous
soit
le dise.
accepté, on ne comprend pas. C'est une notion. Soit accepté, même si on ne comprend pas.
On
Oui.
accepte. Pas qu'on a d'abord, on n'a pas le choix, mais
Oui, donc on n'a pas le choix, on n'accepte pas vraiment, parce que ça revient sur le tapis, on dit.
non, parce que c'est quand même si même Essable la veut pas, Et Sam, il la prend comme concubine de son fils, pas comme épouse. Oh, sûrement pas.
Et ça, c'est pas la gloire, donc s'il l'avait pas, quand même.
Non, mais ça veut dire qu'il a, même lui, il a compris qu'il y avait un problème avec cette.
Notal, c'est un prince. Elle était encore profonde, mais
Dotan, c'est un prince, une princesse, mais princesse de quoi? Liechtenstein ou de, je sais pas, de Andorre, c'est pas, on peut pas. Je sais pas, mais ça a coûté cher, je veux dire. Qu'est-ce qu'elle aurait donné si elle était restée, si on l'avait acceptée? Je sais pas. Pas faire la fiction. Oui. Et puis après, il y a Tamar, qui elle est acceptée, mais elle est trop bien, quoi. Elle est trop bien, et Yehuda, il dit non, ben, ici. Yehuda, il pense que son fils, il fera pas le poids non plus devant elle. Tiens, les fils, ils ont des raisons tous les deux. Ils veulent. Elle, non, elle devait être. Enfin, celle-là, elle est plutôt belle parce que. Le premier, il voulait pas qu'elle ait d'enfant pour pas qu'elle soit déformée par la grossesse. Le deuxième, il veut pas que l'enfant, ah, qu'elle lui donne un enfant qui serait l'enfant, soi-disant, pour compenser son frère. Une descendance pour le frère. Ou des généreux, quoi. Et Yehuda, donc, il dit, bon, il lui donne pas chez là. Elle est mariée avec Yehuda. Mais là aussi, c'est ambigu parce qu'on ne sait pas si la gare. Au texte, c'est un des mots qui est ambigu parce que c'est marqué que on peut le lire ou bien qu'il a plus, il a plus eu de rapport avec elle après la naissance des jumeaux, donc. Mais on peut aussi lire qu'il a plus. Il n'a pas divorcé, il a plus cessé d'avoir des rapports avec elle. Il n'a pas cessé. Donc, non, alors il y avait les deux. Il y a deux possibilités. Ou bien on lit qu'il l'a épousée et puis ils ont vécu normalement, ou bien alors qu'il a reconnu qu'elle était la mère de. Ah, mais il l'a pas épousée.
En tous les cas, Yehuda et Tamar sont les ancêtres que vous avez gardés dans leur société.
Oui, justement. Mais éventuellement, c'est le couple, un couple qui par la suite est marié, ou bien non, c'est deux personnes. Alors sur les différents les caractéristiques des différentes tribus en fait. Par la suite, qu'est-ce qu'on sait de la caractéristique des tribus des tribus. On sait par exemple que la tribu de Réhouven, elle n'a pas digéré que Réhouven soit pas le propre. Donc quand Korach se révolte contre Moshe Rabbeinu, eux, ils pensent comme Korar, quoi. Que c'est pas juste. Et donc, ils pensent que c'est dans la tribu de Reuven qu'on aurait dû choisir, quoi. Nous, on est la tribu du premier-né. Shimon, lui, comme comme Bachour, comme il est, c'est déjà quelqu'un d'extrêmement violent. Tout le monde sait qu'il est violent et très très puissant, puisque, par exemple, Yosef, il ne le laisse pas en liberté. Quand il renvoie les frères pour aller chercher Benjamin, qui est-ce qu'il prend comme otage? C'est Shimon. Il ne le laisse pas. Il est conscient que ce serait très dangereux de laisser Shimon en liberté. Après, je crois qu'on n'entend pratiquement pas parler de lui jusqu'au moment de Zimri. Au moment où Zimri provoque Moshe Rabbeinu avec sa Midianite, là. Et là, il se disqualifie fortement. C'est-à-dire que déjà, Yaakov, lui, là, dans ses brachot, Shimon et Lévi, il ne leur dit pas des bonnes choses. Hein. Il les appelle, il dit, Shimon et Lévi, je ne veux rien avoir à faire avec eux. Rien à voir à faire avec eux. C'est des violents, donc, Mais Lévi se rattrape, comme je vous ai dit, après le veau d'or, avec le veau d'or. Mais Shimon, il ne se rattrape pas là-bas. Et donc, il aggrave son cas au point que, donc, c'est un chef de la tribu de Shimon qui s'oppose à Moshe Rabbeinu avec la Midianite. Et Moshe Rabbeinu, il ne donne pas de, il prévoit pas de part. Shimon, il n'a pas reçu de part dans le partage de la terre d'Israël. On a partagé la terre d'Israël sans donner de part à Shimon. Il a eu une part quand même parce que Yehuda lui a donné une part de son territoire. Mais Moshe Rabbeinu ne l'a pas prévu de lui donner.
Yehuda a donné ça parce qu'il n'a pas validé le jugement de Moshe.
Pardon?
Yehuda lui a donné une part. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas validé ou qu'il n'est pas d'accord avec Moshe?
Non, ça veut dire que il a compris que Moshe ne voulait pas qu'il ait une part comme les autres, alors il a une part quand même, mais pas comme les autres.
Dans un sens, il n'était pas d'accord avec Moshe.
C'est pas sûr, parce que Moshe Rabbeinu, peut-être ça lui, tout ce qu'il voulait, c'est qu'il n'est pas comme les autres. Après, une fois qu'on l'a ostracisé comme ça, il faut bien qu'il y ait une part, quoi.